à 3776 points dans un volume d'affaires d'1,6 milliard d'euros négocié. Sur le marché d'échange, l'euro est également en progression de 0,36% à 1,2180. Il progresse également de 0,70% à 131,70 yens. Sur les marchés de l'or à Paris, le lingot a cédé 50 euros à 10 650. Le napoléon a perdu 50 centimes à 59,50. Et à Londres, l'once progresse de 20 cents à 401,70 $. Je vous redonne le CAC 40 plus 0,91% à 3776 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour ses 2000 ans d'histoire.
Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, 28 juin 1944, il y a 60 ans jour pour jour, la mort de celui qui fut la voix la plus célèbre de la collaboration, Philippe Henriot.
La grande voix de Philippe Henriot s'est tue à jamais. Nombreux sont les Parisiens qui ont voulu voir une dernière fois celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme.
D'histoire. Il est 5h30 rue de Solferino à Paris le 28 juin 1944 quand un groupe de résistants armés pénètre au ministère de l'information et de la propagande du régime de Vichy. Conduit par Charles Gonnard, dit Morlot, il se précipite vers la chambre du ministre Philippe Henriot et frappe à sa porte. Qui est là? Demande Henriot. Milice, répond Morlot. Des terroristes veulent vous enlever, nous venons pour vous protéger. Philippe Henriot ouvre sa porte, se rend compte qu'il a été trompé, tente de désarmer ses adversaires avant de recevoir 16 balles dans la peau. C'est ainsi qu'est mort l'homme que la résistance surnommait le Goebbels français, celui qui tous les jours au micro de Radio Paris défendait la politique de collaboration et s'en prenait à la résistance et aux Français libres du général de Gaulle. C'est à eux d'ailleurs que la veille encore, 10 heures avant d'être exécuté, Philippe Henriot s'adressait dans ce qui devait être son dernier éditorial. C'était le 27 juin 1944.
Vous osez dire que je suis un agent de l'Allemagne. C'est pour vous, n'être pas à la solde des envahisseurs, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas défendre les Juifs. Demander à être libéré des francs-maçons, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas vouloir pour la France de la domination bolchevique, c'est être un agent de l'Allemagne. S'adresser contre les gens du maquis, pillards de fermes, assassins d'enfants, c'est être un agent de l'Allemagne. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez vos outrages. Je ne répondrai plus. Il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs, ni avec les meurtriers. Je vous ai fait trop d'honneur. Je ne peux pas vous haïr, mais je vous méprise trop. Avoir encore quelque chose à vous dire.
Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Patrice Gélinet.
Vous êtes historien, spécialiste entre autres de l'histoire de la France pendant l'occupation. Alors à l'époque, à cette époque-là, tout le monde connaissait la voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Philippe Henriot qui allait être exécuté 10 heures à peine après ce qui devait être son dernier éditorial. C'est étonnant d'ailleurs quand on a l'impression qu'il pressent presque ce qui va lui arriver.
Oui, ça a quelque chose de prémonitoire. Il faut reconnaître que le débarquement a eu lieu, on le sait bien, on en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il a eu lieu pendant qu'il était lui-même en train de faire une grande tournée de propagande, parce que c'est grand propagandiste du régime, surtout sur le tard, en Allemagne. Donc ça l'a surpris alors qu'il était en Allemagne. Je pense qu'il devait sentir que la fin, de toute façon, du régime approchait, la sienne peut-être, mais la fin du régime.
Alors c'était, vous le dites, la voix de la collaboration avec l'Allemagne, on l'a entendu, l'antisémitisme, de la lutte contre la résistance. Et alors, une voix extraordinairement efficace. Tout le monde écoutait Henriot à l'époque, même ses adversaires reconnaissaient qu'il était un grand orateur, Pascal Horry.
Oui, nous sommes à l'apogée du rôle de la radio dans la formation des esprits, et c'était un grand tribun. D'ailleurs, c'est ce qui l'avait distingué dans l'entre-deux-guerres. Hein. Fondamentalement, c'est un catholique, et par ailleurs, c'est un tribun. C'est un homme qui a un vrai talent qu'il n'a d'ailleurs pas cultivé au départ. Il a été enseignant dans les quelques écoles privées, mais très vite, il est devenu essentiellement un tribun, un secrétaire général de mouvements catholiques, la Fédération nationale catholique, etc. Et donc, en fait, c'est surtout un orateur, mais même s'il a été aussi éditorialiste, hein, puisqu'il écrit jusque début 1942 dans Gringoire, dans un grand hebdomadaire d'extrême droite. Mais c'est avant tout un homme du verbe d'action, et d'ailleurs il adorait ça. Et avant d'être devant son micro, il parcourait depuis 1940 la France. Il faisait des conférences qui étaient visiblement très suivies.
Alors ce qui est étonnant, c'est un peu son parcours. Aucune biographie sérieuse n'a été écrite sur Henriot. Pascal Horry, on connaît assez mal sa jeunesse, mais par exemple, de savoir que ce collaborateur, il est né, je rappelle, en 1889 à Reims. Il a été effectivement professeur dans le privé en Gironde. Il n'a pas fait la guerre de 14-18 sous prétexte parce qu'il a été réformé. Je crois qu'il avait des problèmes pulmonaires. Et alors, il était, ce futur collaborateur était même violemment anti-hitlérien. Il écrivait « Hitler m'a laissé l'impression d'être complètement fou et quand je dis ce mot, je lui donne son sens littéral. » C'est assez étonnant de la part d'un homme qui deviendra ensuite un collaborateur des autorités d'occupation.
C'est étonnant quand on le juge à tout point de vue en 1944, mais c'est pas étonnant quand on considère dans l'entre-deux-guerres ce qu'est un nationaliste français qui est forcément germanophobe. Donc il est d'abord catholique à mon avis, c'est ça sa grande identification au départ. Mais il participe de la droite, voire de l'extrême droite catholique, donc il est très anti-allemand, c'est tout à fait normal.
Et violemment aussi antisémite, très hostile.
Anti-maçonnique, anti-parlementaire bien que député, et anti-communiste.
Il s'est manifesté notamment à l'époque, un peu avant le Front Populaire, dès le 6 février 1934, il conspue la Troisième République. En 1936, parce qu'il est déjà député de Gironde, justement député catholique de Gironde, en 1936 il est hostile au Front Populaire. Et puis alors en 1940, on s'en doute, il se rallie au maréchal Pétain, qui va même faire de lui son ministre de la Propagande le 6 janvier 1944. Écoutez les deux hommes, Henriot et Pétain, dans cette conversation enregistrée sur Radio Paris le 18 avril 1944.
Avez-vous, vous qui êtes chargé de la propagande, quelque chose à dire à ce sujet ?
Je n'ai rien à dire, monsieur le maréchal, après vous, personne n'a rien à dire.
Non, faites pas de compliments, s'il vous plaît. En tout cas, quand vous prenez la parole, c'est pour dire quelque chose, et ça compte. Je vous assure que ça compte. Et vous avez un peu révolutionné la France, un tout petit peu, vous n'avez qu'à continuer. Et si nous travaillons ensemble, du même cœur, eh bien nous arriverons à un résultat.
Étonnant cet échange entre Henriot et Pétain en avril 44, Pascal Horry. On voit bien Henriot vraiment confiant en dévotion devant le maréchal.
Oui, sur ce plan-là, il participe d'une culture traditionnelle où le respect au grand chef, en particulier au grand chef militaire, le père d'Henriot était un officier. Hein. Tout ça était très lié quand même à un certain milieu, de la bourgeoisie catholique, champenoise d'ailleurs, puis bordelaise par son mariage. Enfin, il est dans la dévotion pétainiste classique, ce qui rend d'autant plus frappant son engagement ultra-allemand, parce qu'il est évident que sur ce plan-là, le maréchal Pétain est en retrait.
Alors justement, quand même, le maréchal Pétain est à l'origine de la politique de collaboration. On dit souvent, c'est l'historien Henri Rousseau qui le dit, qu'il devient très pro-allemand à partir de 1941, lorsque commence la guerre entre l'Allemagne et la Russie, et Rousseau dit que finalement son anti-communisme prend le pas sur son anti-germanisme.
Tout à fait, on pourrait faire un parallèle avec d'ailleurs un prélat de l'église, le cardinal Baudrillard, avec lequel il y a des liens étroits, qui transforme la lutte du Troisième Reich, quand même fondamentalement, avec quelques alliés contre l'Union soviétique, en une nouvelle croisade. Et Henriot fait partie de ces gens qui, d'une certaine façon, sont un peu méfiants à l'égard d'Hitler, au moins sur un point, jusqu'en 41, c'est qu'il a signé un pacte avec le diable, avec Staline, il ne faut quand même pas l'oublier. Et ça les libère, hein. Juin 41 les libère, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils se sont décroisés.
Lui-même d'ailleurs s'engage dans la milice, il a un fils qui va se battre du côté de l'Allemagne, je crois, dans les troupes aériennes de l'Allemagne.
Et ça va très loin, parce que l'enregistrement qu'on vient d'entendre avec le maréchal se situe donc, d'après ce que vous venez de dire, en avril. Ça fait quelques jours que Henriot est allé jusque dans le maquis des Glières, accompagner les Allemands et la milice, mais essentiellement les Allemands, écrasant un maquis. Ça va quand même très très loin, c'est un ministre, journaliste, homme de radio, et qui accompagne l'écrasement d'un des grands maquis de l'histoire de la résistance, ça va très loin.
Et cela sans avoir du tout le sentiment de trahir la France, au contraire, aux yeux de Philippe Henriot, les traîtres sont les Français libres qui s'expriment à la radio de Londres.
Pitoyable porte-parole de la trahison, la fille de la trahison salariée, savez-vous où est le nœud du sophisme? Vous parlez de l'Allemagne et vous dites l'ennemi. L'ennemi de qui? Du jour où l'armistice est signé, je ne puis plus appeler ennemi le peuple en vertu. J'ai pris par la voix de mes chefs des engagements nouveaux. Je ne travaille pas pour l'Allemagne. Je ne travaille pas pour l'ennemi. Je ne ressemble ni à M. Grenier, ni à M. Marty, ni à M. Labat, ni à M. Schumann, juif, ni à M. Dac, juif, ni à M. Bloch, juif, ni à M. Mendes, juif. Je feuillette mon histoire du repos leur hostilité et leur duplicité, et je me sens bien plus à l'aise pour défendre avec la France l'Europe menacée, moi qui ai pris parti contre l'Allemagne menaçante, que les gens qui ont refusé de lutter pour leur pays ne sonnent pour les autres le tocsin de la mobilisation que le jour où ils en ont reçu l'ordre de Staline et ses alliés.
Des salauds ressemble à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Philippe Henriot.
Et c'était Pierre Dac qui de Londres répondait en chantant aux éditoriaux de Philippe Henriot. C'est un des aspects de ce qu'on a appelé la guerre des ondes. La radio a joué un très grand rôle, vous le disiez Pascal Horry, dans cette guerre, et notamment cet affrontement entre Radio Londres et Radio Paris.
Oui, quand on pense à toutes ces stations qui, à un certain moment décisif de la bataille des idées, parfois on pense aux messages codés avant le débarquement de la bataille militaire, ont été extrêmement écoutées. Donc la BBC, Radio Stuttgart, Radio Moscou, qui était moins facilement audible, mais qui avait un certain nombre de journalistes, et en particulier de journalistes français, dans ses studios. Et effectivement, Radio Paris et Radio Vichy, c'est l'apogée du rôle politique de la radio. Et d'ailleurs, le général de Gaulle est un homme qui entre dans l'histoire par le micro.
Enfin, en disant pas tout à fait la même chose que Philippe Henriot.
Non, mais c'est le micro. Le micro, c'est capital. Personne ne le connaît en France, pratiquement.
Il y a un autre collaborateur moins connu aujourd'hui, mais qui était très célèbre à l'époque, et Jean-Hérol Paquis aussi.
Oui, Hérol Paquis, qui avant-guerre était déjà chroniqueur à Radio Saragosse, qui était la radio franquiste, ce qui montre bien le lien entre tous ces engagements-là. Oui.
Alors, ces interventions à la radio, Philippe Henriot ne les abandonne pas, au contraire, quand il devient ministre de la propagande, le mot est clair, ministre de la propagande de Pétain en 44. Au contraire, il fait constamment la navette entre Vichy et Paris pour s'exprimer, je crois, deux fois par jour au micro de Radio Paris. C'était très écouté, je crois, ces émissions de Henriot, ces éditoriaux de Henriot.
Oui, d'abord, la radio est plus écoutée, d'une certaine façon, plus entendue que la presse écrite qui est en pleine crise et qui aura peut-être du mal à s'en relever jamais. Et puis d'autre part, il a un vrai talent. Bon, aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre nous paraît, en dehors du contenu antisémite, ça nous paraît assez rhétorique, mais c'est une rhétorique qui était plus moderne qu'on imagine à cette époque-là. C'est quand même un pur produit de la rhétorique classique, et ça marchait, visiblement. Mmh. D'ailleurs, la résistance le considérait comme très dangereux.
Mmh. Et d'ailleurs, cette résistance, il s'en prend à elle, et notamment aussi à la France libre. Notamment, il parle constamment de deux personnes que l'on entend de l'autre côté de la Manche au micro de Radio Londres. C'est Maurice Schumann, qui est le porte-parole du général de Gaulle, et puis Pierre Dac, contre lequel Henriot se déchaînait. On écoute d'ailleurs un de ses éditoriaux, un des éditoriaux de Henriot, et la réponse de Pierre Dac, qui ce jour-là a cloué le bec au ministre de Pétain, c'était le 10 mai 1944.
Nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. Mais le juif Dac, s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France?
Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, c'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien. si vous le pouvez.
Magnifique cette réponse de Pierre Dac à Philippe Henriot, Pascal Horry.
Ah oui, c'est un grand moment pour l'histoire de la radio. On peut dire qu'il y a des moments d'une intensité. Et c'est vrai qu'il n'y a plus rien à dire. Pierre Dac était un homme extrêmement patriotique. C'était l'homme qui avait lancé la formule des loufoques et le Samuel, était intransigeant sur le patriotisme. Il l'a prouvé à plusieurs reprises.
Et puis le seul pratiquement en mesure à tenir tête aux éditoriaux de Henriot. Et alors on l'a entendu aussi, il annonce d'une certaine manière la mort de Henriot. C'est très prémonitoire ce que l'on vient d'entendre.
Oui, il faut reconnaître d'ailleurs que une partie des partisans de Vichy n'imaginait pas qu'au fond leur engagement pouvait les traîner d'abord devant les tribunaux, a fortiori devant des pelotons d'exécution ou quelques circonstances assimilables. Or, au début de l'année 44, un ministre de Vichy a déjà été exécuté, c'est Pucheux. Et on sent bien que désormais, il va falloir rendre des comptes. Je pense que ça contribue d'ailleurs beaucoup à la nervosité, c'est moins qu'on puisse dire, de la ministre dont il faut rappeler, vous l'avez dit, que Henriot faisait partie. Il va y avoir des règlements de comptes juste avant la mort d'Henriot. Jean Zay, le ministre du Front Populaire, va être exécuté par des miliciens, entre autres parce que Henriot a contribué à son discrédit aux yeux des miliciens par la publication de carnets pendant le carnet de Jean Zay, sans autorisation de mission de Jean Zay, pendant l'occupation. Donc tout ça est ensanglanté. Et l'assassinat d'Henriot, dont on va reparler certainement dans un instant, se situe dans une chaîne.
Alors justement, la mort d'Henriot, c'est en fait la résistance qui décide justement de l'éliminer, sans doute parce que justement, aux yeux de la résistance, il était diablement efficace, il fallait le faire taire.
Oui, c'est le Comac qui en a ainsi décidé, ce sont vraiment des décisions à caractère quasiment militaire. Alors s'agissait-il de l'enlever ou de le liquider, en tous les cas...
Le Comac, il faut rappeler, c'est le comité d'action militaire de la résistance.
En tous les cas, il est clair que si on ne pouvait pas l'enlever, il fallait le liquider sur place, c'était les consignes du Comac.
Oui, parce qu'il y avait un projet d'enlèvement. Et puis alors, en réalité, on avait dit à ceux, au groupe de résistants commandé par ce Morlot, qui était son nom de guerre, qu'ils enlèvent Henriot, et s'ils ne pouvaient pas le faire, de l'exécuter. Alors il y a toute cet épisode extraordinaire, ils se réunissent le matin du 28, je crois que Henriot était à Paris, ils apprennent, ils s'étaient renseignés auprès de gens qui se trouvaient au ministère de la propagande, qui se trouve, soit dit en passant aujourd'hui, mais ça n'a plus aucun rapport dans l'actuel siège du Parti Socialiste, c'était rue de Solferino, et ils se renseignent auprès du concierge, je crois qu'il leur donne des renseignements, et ce concierge leur dit, Philippe Henriot sera là cette nuit avant de partir à Vichy, et puis ils arrivent donc à la porte, ils se font passer pour des miliciens, ils disent à Henriot qui est barricadé dans sa chambre, nous sommes des miliciens, Henriot leur ouvre la porte, et puis là ils se rendent compte effectivement de la supercherie, ils essayent de prendre leurs armes, et Morlot donne l'ordre de tuer Henriot, et le soir même, donc du 28, à l'heure où Henriot parlait sur Radio Paris, eh bien c'est le chef du gouvernement, Pierre Laval, qui annonçait la mort de son ministre de la propagande, c'était il y a 60 ans, jour pour jour, le 28 juin 44 à 19h30.
Vous êtes venus comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à Poudrevolder, sous les yeux même de sa femme. Cette grande voix française, éloquente, passionnée, n'était indifférente à personne. Elle était aimée ou elle était redoutée. Faute de pouvoir répondre à Philippe Henriot, on l'a fait taire. Faute de pouvoir lui fermer la bouche, on lui a fermé les yeux. Il est tombé ce matin en héros et en martyr.
Et c'était Pierre Laval annonçant donc la mort de Philippe Henriot le jour même de son exécution par la résistance, le 28 juin 44. Et évidemment, c'est sur le même ton que s'expriment le lendemain les journaux de la collaboration, la revue de presse Stéphanie Dancar.
Oui, le lendemain, tous les journaux parisiens de la collaboration, bien sûr, y consacrent leur une. Philippe Henriot est lâchement assassiné par des bandits à la solde de l'Intelligence Service, titre Le Matin. Le Matin où Stéphane Lausanne adresse un vibrant hommage aux morts. Philippe Henriot, vous avez eu une mort glorieuse après après avoir mené une lutte glorieuse. Ceux qui vous connaissaient savent que vous vous y attendiez, mais vous disiez aussi « qu'importe, puisque je fais mon devoir et que je sers mon pays ». Hommage aussi du petit Parisien, l'inlassable combattant de la cause nationale, l'apôtre ardent de la réconciliation européenne, ça veut dire l'amitié avec l'Allemagne, a été abattu hier par des terroristes à la solde de l'étranger. Il s'agit là d'un crime contre la France. En Marcel Déa, dans son journal L'Œuvre, exprime son mépris pour les tueurs, les assassins d'Henriot. Marcel Déa, qui d'ailleurs n'a pas toujours été d'accord avec Henriot par le passé. Et donc, Marcel Déa, trois semaines seulement après le débarquement, affirme sa conviction, il réaffirme sa conviction dans la collaboration. « Je tiens, dit-il, à ce qu'on sache que le courage tranquille et la froide résolution des vrais révolutionnaires et des vrais patriotes seront exaltés par l'exemple que leur a donné Henriot, dernier en date des martyrs, dont les cadavres jalonnent les durs chemins de notre avenir, et qu'avant l'heure souhaitable de la réconciliation entre Français aura sonné celle, non moins nécessaire, dit-il, de la vengeance. » Et oui, la vengeance, hein, c'est aussi à la vengeance, et non à la justice, pourrait-on dire, qu'appellent les miliciens dans leur journal Combat, Combat avec un S. Et eux-mêmes se proposent de faire le boulot. « C'est à nous, disent-ils, qu'il appartient de frapper ceux qui, de près ou de loin, ont préparé ce crime. Philippe Henriot, ils ont cru, en vous tuant, jeter le désarroi dans nos troupes. Je vous apporte le plus bel hommage que vous pouvez attendre de nous. Le jour de votre assassinat, plus de 1000 Français sont inscrits à la milice. Votre sacrifice offre le chemin de notre victoire. » Alors, en des termes un peu moins guerriers, mais tout aussi convaincus, l'Action française de Charles Maurras déplore la disparition d'Henriot. Il a porté des coups directs à la dissidence. Il en a ramené bien des égarés. Qui donc le remplacera dans cette lutte contre le mensonge? Dans l'hebdomadaire Je suis partout, Georges Champeau insiste sur l'émotion de la foule aux obsèques. Hommes, femmes, enfants avaient le même maintien simple et grave. Les hommes ne se cachaient pas de pleurer. J'ai vu des milliers de femmes se pencher pour laisser tomber un bouquet. Alors, du côté de la résistance, évidemment, on se réjouit. Henriot est mort, vive la France, s'exclame le Front National dans un tract. Alors, le Front National, bien sûr, c'est la résistance communiste. Henriot, c'était l'embusqué des deux guerres, le traître vendu à Hitler, le Goebbels français. Il a payé sa dette de trahison. Les bras vengeurs des patriotes ont frappé avec précision.
Un commentaire sur ces articles au lendemain donc, de la mort de Philippe Henriot, Pascal Horry. D'abord, peut-être sur ceux de la collaboration. À l'évidence, il était, ça je ne crois pas que ce soit de la propagande, il était très populaire, Henriot.
Ils avaient tous reconnu ses qualités de tribun. C'est intéressant de remarquer la citation de l'Action française qui montre bien qu'il peut y avoir des inflexions. L'Action française n'était pas fasciste comme l'était Je suis partout. Et en même temps, un personnage comme Henriot, qui est un extrémiste, qui est un ultra de la collaboration, est salué même par l'Action française. C'est-à-dire que dans les derniers temps de Vichy, il y a une convergence dans un certain radicalisme. Parce qu'on aurait pu imaginer que l'Action française prenne un peu de recul par rapport à la germanophilie évidente d'Henriot. Il y a un seul journal qui est absent de ce panel, d'ailleurs, il vient de se taire, mais c'est un journal auquel Henriot avait collaboré. Il était le principal collaborateur de Gringoire, et le directeur de Gringoire, de Carbuccia, sentant le vent tourner, avait lâché Henriot et est en train de ménager un retournement de veste.
Oui, parce que le vent tourne, hein, on est trois semaines après le débarquement en Normandie, on est quelques semaines avant la libération de Paris, les alliés sont en train de progresser en France. Alors justement, il y a des choses étonnantes quand même, parce que derrière ces articles, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est le fait que les collaborateurs commencent à sentir, comme vous le dites, le vent tourner. Par exemple, Pétain n'a pas assisté aux obsèques de son ministre. C'est quand même assez inouï.
Oui, Pétain, malgré ce qu'il a quand même dit là, lorsque le micro était ouvert, n'approuve pas complètement la stratégie d'Henriot, le considère comme trop pro-allemand. Et d'ailleurs, Pétain est en train de prendre ses distances à l'égard de la milice, et il va in extremis condamner la milice, provoquant d'ailleurs un sursaut indigné qu'on peut comprendre d'ailleurs du patron de la milice d'Arnaud, qui dit mais monsieur le maréchal, il fallait le dire avant, parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être couvert. Quoi, hein.
Il y a même aussi les autorités ecclésiastiques, parce qu'on se bat pour savoir comment vont avoir lieu les obsèques de Henriot. Alors d'abord, il y a la mairie de Paris qui sent aussi le vent tourner et qui refuse que le corps de Henriot soit exposé aux Parisiens à l'intérieur de l'hôtel de ville. Bref, on le met devant l'esplanade. Et puis alors, il va y avoir des obsèques religieuses importantes, n'oublions pas que Henriot était très catholique, et que ces obsèques, eh bien, les autorités ecclésiastiques n'ont pas du tout envie d'être présentes en réalité.
Oui, et malgré tout, le cardinal Suard, l'archevêque de Paris, sera présent, ce qui lui sera très vivement reproché, y compris par le général de Gaulle, puisque dans la liste des évêques dont le général de Gaulle eut voulu voir crosser la tête et remplacer, il y avait le cardinal Suard, et le dernier élément du dossier, le principal d'ailleurs, c'était sa présence aux obsèques de Philippe Henriot.
Alors il n'est pas seul, le cardinal Suard, il y a des miliciens qui sont présents, et des représentants de l'armée allemande sont à Notre-Dame, donc le jour des obsèques de Philippe Henriot, auquel assistait bien sûr Radio Paris, tendez bien l'oreille car cette archive du 1er juillet 1944 est en mauvais état.
Les 8 miliciens qui portaient le corps ont repris sa faction, ont repris leur faction. Tous les représentants officiels des ambassades, la très nombreuse représentation des autorités occupantes quittent la cathédrale, se vide peu à peu. La France et l'Église ont rendu les derniers honneurs à Philippe Henriot. Il va maintenant rester seul pour appartenir entièrement à sa famille, qui le conduira bientôt reposer dans la terre de ses pères.
Et la terre, ce sera la terre de, du Bordelais. Alors c'était les obsèques de Philippe Henriot à Notre-Dame le 1er juillet 44, des obsèques solennelles d'ailleurs, auxquelles n'aura pas droit un homme dont on n'a pas parlé, j'aimerais qu'on termine avec lui d'ailleurs, et qui a été assassiné deux jours avant cette cérémonie, c'est Georges Mandel, dont l'assassinat est lié à celui de Philippe Henriot. C'est en fond une revanche de la milice.
Oui, de même que la milice venait d'exécuter de façon tout à fait ignoble Jean Zay, après la mort d'Henriot, assoiffée de vengeance, elle va se venger sur un autre symbole qui a contre lui d'être juif, d'être un patriote, qui en 1940 a d'ailleurs arrêté un certain nombre de pré-collabos, et qui est Georges Mandel. Et on peut dire que Henriot a directement, c'est intéressant du point de vue de la responsabilité du journaliste et de l'intellectuel, du sang sur les mains quand même, les Glières, Jean Zay. Et d'une certaine façon, après sa mort, il tue encore.
C'était donc la mort de Philippe Henriot. On comprend d'ailleurs, on est en pleine période sombre, hein, ces règlements de compte en permanence. On comprend aussi ce qui va se passer.
Oui, parce qu'il y a des règlements de compte.
Il va y avoir l'épuration.
De l'autre côté aussi. Hein,
ouais. Bien sûr. Il y aura l'épuration. On comprend aussi la violence de l'épuration qui va suivre. Merci Pascal Horry donc de nous avoir rappelé 60 ans après son exécution donc par la résistance, la mort de Philippe Henriot et puis aussi sa vie que l'on connaît peu et que l'on retrouve aussi dans un livre paru au Seuil en 1977 que vous avez écrit, qui s'appelle Les Collaborateurs, un livre d'ailleurs sur la couverture duquel on trouve la photo de Philippe Henriot en milicien, c'était un grand discours en l'honneur de la milice pendant la guerre et à laquelle participait Philippe Henriot. Vous avez également fait paraître plus récemment un livre chez Perrin du fascisme. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Benjamin Lagatinet, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamel, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand bond en arrière dans le passé, bien loin de la France occupée, la guerre de Troie, mais tout de suite à 14h30, celle que Paris serait bien enlevée s'il l'avait connue.